Bonjour, déjà mardi, beau soleil, 21 février 2017. Bienvenue à l'émission Les Voix de Service Magazine. Autour de la table, les dynamiques Michel Audet, Louis de Bernis et Sylvie Dion. Bonjour à vous trois.
Bonjour. Bonjour.
Oh, en cœur, l'harmonie qui règne en studio. Oui. Alors, présentez-nous vos sujets. On commence par vous, Sylvie.
D'accord. Vous avez sans doute remarqué, mon œil est souvent attiré par des articles qui nous présentent des produits ou des services qui sont bons pour l'impact positif, pour l'environnement ou pour notre vie en général. Alors, ce matin, je vais vous parler de la cosméto au naturel.
Bon,
cosméto, hein, ça fait...
Ça attire notre œil.
Et ensuite, sur l'alimentation, dis-moi qui tu es et je te dirai ce que je t'offre à manger.
Merci beaucoup. Michel, vous?
Oui, de mon côté, bien, vous savez, quand vous voyagez en avion, bien, particulièrement en avion, il y a toujours des comportements qui peuvent être dérangeants. Et c'est peut-être vous qui les provoquez, d'ailleurs.
Quand ça parle fort. Moments,
à toutes sortes de choses du genre. Donc, il y aurait comme 10 bonnes résolutions à prendre lorsque vous prenez l'avion, que ce soit à l'aéroport, dans l'avion ou à la sortie.
On va prendre des notes.
Comment être un voyageur agréable, c'est ça?
Agréable, là aussi, c'est ça, tout à fait. Tout à fait. Puis ensuite, je vais vous parler de quelque chose de très particulier, le dindon sauvage.
Ah oui. Qui fait des ravages.
Actuellement, oui, c'est ça. On en parlait d'ailleurs, oui.
Récemment dans l'actualité, oui. Ça, oui.
Aucun lien avec le voyageur.
Quoique. Louis, vous?
Je vous parlerai d'animaux également et du syndrome de Noé. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Et également d'un conducteur d'avion, d'un pilote d'avion livreur de pizza.
Oh my. Alors, ben, je pense que ça va être une émission intéressante et même plus. Alors, Michel, il y a des voyageurs qui ne savent pas vivre.
Oui, bien, la plupart du temps, je pense que c'est pas de mauvaise volonté. On s'en rend plus ou moins compte d'une certaine façon. D'abord, pourquoi ne pas voyager léger ou plus léger, disons? Ben, simplement en partant, ben, vous savez, moins de kilos, ben, ça signifie aussi moins de kérosène, hein? Bien sûr. Alors, une bonne façon, peut-être, c'est lorsque vous faites votre valise, ben, étalez votre linge, puis enlevez-en la moitié. Parce qu'ordinairement, on peut dire qu'il y en a au moins deux fois trop.
Souvent trop.
La plupart du temps. Et en même temps, c'est que lorsque vous arrivez... J'aurai l'occasion de parler d'un autre aspect aussi, pour le voyager léger. Mais la même chose pour votre bagage de cabine. Hein. Et vous savez, ce qui peut être ennuyeux, c'est quand les gens arrivent... au guichet ou
au comptoir.
Au comptoir, oui, c'est ça. Et que là, tout à coup, ils s'aperçoivent qu'ils ont 2 kilos de trop. Et maintenant, les compagnies d'aviation. Et qu'est-ce que vous pensez que les gens font souvent? Ils sont au comptoir, ils vident leur valise pour mettre dans leur bagage de cabine. Pendant ce temps-là, tout le monde attend en arrière. Alors, ça ne me tente pas nécessairement de voir vos bobettes étalées par terre. Non, pas nécessairement.
Et c'est une perte de temps aussi.
C'est une perte de temps assez considérable. Et... C'est ennuyeux pour tout le monde. Mm-hmm. Et aussi, je voudrais parler en même temps des bagages de cabine. Vous savez, il y a ce qu'on appelle un gabarit à l'aéroport. Mm-hmm. Malheureusement, je crois que dans tous les voyages, ça m'est arrivé une seule fois qu'on a utilisé le gabarit. Vous savez, pour la grosseur du bagage de cabine. Les compagnies ne s'en occupent absolument pas. Donc, vous arrivez dans l'avion et le bagage est beaucoup trop considérable. Et là, les gens ont de la difficulté à le... Souvent, ils doivent demander à quelqu'un, d'ailleurs, pour les aider. Pendant ce temps-là, la file attend à l'arrière.
Le gabarit sert à mesurer.
Oui, c'est ça. Mais ils ne l'utilisent pas. Il est là comme décoration. Je vous dis, dans tout le temps que j'ai voyagé... Et ensuite de ça, donc un autre aspect du bagage, c'est que lorsque votre siège, c'est le numéro 36 à l'arrière, et que vous mettez votre bagage au numéro 18 ou au numéro 4, parce que ça va être commode quand vous allez sortir. Oui, mais vous venez de paralyser les gens en avant.
Et prendre la place de quelqu'un.
Bien, qui eux autres vont devoir aller le mettre au 36. Mm-hmm. Et quand vous allez venir pour sortir, comment on fait? C'est ennuyeux. Maintenant, quand vous passez, vous savez, vous devez passer à l'inspection, qui n'est pas toujours le moment agréable. Essayez donc prévoir d'enlever votre manteau, de vider vos poches. Vous savez, ce n'est pas particulièrement intéressant, les gens qui enlèvent leur collier, leur bague, leur monnaie dans les poches. Pendant ce temps-là, tout le monde attend. Et c'est un moment pénible dans le voyage. Ce n'est pas particulièrement un moment intéressant. La bouteille d'eau, vous savez qu'elle va vous être enlevée. Alors, si elle est dans votre bagage et vous êtes obligé de défaire le bagage, de fouiller, etc., la bouteille d'eau, elle ne passera pas.
On n'a pas tous la même expérience que vous, quand même, Michel.
Non, mais c'est pas ça qu'on parle.
Oui, c'est pour ça
qu'on parle. Et voilà pourquoi j'en parle. Sinon, j'aurais plus rien à dire, d'une certaine façon. Et plein de choses comme ça. Bon, il y a des gens qui doivent aller aux toilettes souvent. Bon, pour toutes sortes de raisons, mais voilà. Alors, à ce moment-là, lorsque vous demandez l'assignation de votre siège, demandez donc près de l'allée, s'il vous plaît. Parce que si vous demandez près du hublot, vous en allez à Shanghai, vous avez 14 heures d'avion à faire.
Excusez.
Et vous devez enjamber la personne qui est à côté, qui peut-être qui veut dormir, peut-être qu'elle veut lire ou des choses semblables. Très ennuyeux. Donc, toutes sortes de petites choses à considérer, c'est ça. Et maintenant, l'autre chose, c'est la fameuse conférence de presse dans l'allée. Et ça, c'est fréquent, bon, particulièrement dans les voyages dans le Sud. Les gens ont beaucoup de choses à dire, mais ça n'intéresse pas nécessairement celui qui est à côté. Et ça, c'est régulier, ça m'est arrivé dernier envol. Sur un envol qui était assez long, la personne a été là certainement pendant une heure et demie à gueuler, à gesticuler. C'est très, très, très fréquent.
Circuler.
Vous êtes à l'allée 29 et lui est à l'allée 16 et il vient s'appuyer sur le... Il raconte son histoire.
Les agents de bord font rien dans ce temps-là?
Non, ils interviennent très peu. Non, les agents de bord, je vais vous dire une chose. Maintenant, ils servent. Ce sont des serveurs.
Ils sont au bord de la crise de
plus en plus. Et vous savez, il y a tellement de compétition dans les compagnies d'aviation qu'ils font attention. Ah, ils sont très attentifs.
Oui, mais ça dérange certains.
À ce moment-là, il faut le mentionner, il faut le dire. Bien, vous savez, c'est toujours délicat quand vous avez ce bonhomme-là qui peut-être sera à votre hôtel aussi et que l'agent de bord est à côté. Vous dites, monsieur, pouvez-vous, s'il vous plaît? Et tout le monde n'est pas nécessairement d'un grand civisme. Donc, la conférence de presse. Ensuite de ça, après l'atterrissage, on vous spécifie toujours de rester à votre place jusqu'au dernier mouvement de l'avion. Donc, lorsqu'il est... Et il y a toujours des gens pour être debout dans l'allée, se dépêcher à sortir leur bagage. C'est ennuyeux pour tout le monde.
Ils sont pressés d'aller sur le panier.
Ça ira pas plus vite. Mm-hmm. On va sortir en même temps. Vous allez devoir vous présenter aux douanes de toute façon. Et vous allez devoir attendre vos bagages. La même chose, les bagages, quand vous arrivez au carrousel. Je parlais du poids des valises tout à l'heure. Vous savez, quand les valises descendent sur le carrousel, souvent, ils sont un peu empilés. Et c'est difficile, souvent, de les sortir. Alors là, vous voyez la personne qui prend son élan, il y a des gens alentour, bagages très lourds, et vous risquez de vous faire frapper. Donc, en fait, tout ça, quand on regarde, c'est une question de civisme au bout de la ligne, tout simplement. Mais on dirait que bizarrement, des gens en voyage changent de comportement tout à coup ou ont des comportements exacerbés que vous ne constatez pas nécessairement régulièrement.
Alors, l'enfant de 3 ans se manifeste.
Oui. Et ça, parfois, l'enfant de 3 ans qui est assis à côté de vous, ça peut être ennuyeux. Bon, il ne peut pas y faire grand-chose.
Oh, mais celui-là, il y a excuse d'avoir vraiment 3 ans.
Ça m'est arrivé récemment. Un grand-père qui voyageait avec son petit-fils, probablement, qui, dès que je suis arrivé, peut-être qu'il y en avait quelque chose contre moi, là. Il s'est mis à pleurer, mais à crier.
Il voulait attirer votre attention.
À crier. Oui, mais tellement que l'agent de bord est venu me voir et me dit, j'ai une faveur à vous demander. Ah oui, c'est bien. Elle dit, est-ce que ça vous dérangerait de me suivre, d'avoir un autre siège? Non, pas du tout. Non, ça va très bien. Et elle m'a amené en première classe.
Oh!
Magnifique.
Grâce à un enfant de 3 ans.
Magnifique. Mais voilà. Alors, de petits comportements à corriger, peut-être, pour rendre le vol agréable.
Merci pour tous ces conseils, ces recommandations. Sylvie, vous parlez maquillage ce matin.
Cosméto, mais oui. Pas maquillage, produit capillaire.
Le contraire de maquillage.
Moi, je ne sais pas si c'est le contraire. Le complément, disons.
Oui.
Mais peut-être que le maquillage va suivre parce que La procédure est intéressante. Donc, je me ferai ce matin donc la voix d'Iris Gagnon-Paradis, qui était dans la presse, qui écrivait dans la presse le 17 février et qui nous raconte le cheminement d'une entreprise verte en cosmétique. Ça fait plus de 2 ans que l'homme d'affaires et chimiste de formation Jean-Éric Marie courtise PharmaPrix afin d'introduire ses produits capillaires dans les pharmacies et il est très heureux du résultat obtenu. On joue désormais dans la cour des grands. C'est doublement intéressant car en plus d'être une marque québécoise, nous sommes aussi une marque 100% naturelle. C'est une première pour un soin capillaire. On peut donc dès maintenant se procurer dans les sections professionnelles de la chaîne de pharmacie les produits capillaires Mystique M-I-S-T-I-K qui comportent des shampoings, des revitalisants et sérums et qui sont tous élaborés à partir d'ingrédients végétaux sans sulfate, silicone, parfum ou ingrédients issus de la pétrochimie. Né dans l'île Maurice, M. Marie a ensuite migré vers la France où il a entamé des études en chimie classique. « Je me spécialisais en ingénierie de formulation, donc en conception de produits », explique-t-il. Mais en 2004, c'est le choc. Un de ses professeurs meurt d'un cancer causé par une exposition prolongée à des produits chimiques, un drame qui le pousse à réfléchir sur sa propre carrière. La chimie est un des métiers les plus à risque du monde. On n'y pense pas, mais les chimistes sont exposés à plein d'agents cancérigènes et à des situations violentes, comme des explosions ou des brûlures. Sans compter que le pétrole crée des enjeux géopolitiques et des guerres qui génèrent également de la violence. À cette époque, je travaillais en laboratoire avec des produits qui étaient hautement toxiques. Je me suis mise à me poser beaucoup de questions, explique-t-il. Au même moment, il découvre l'existence de la chimie verte et il réoriente sa carrière en allant rejoindre l'équipe de recherche d'un professeur à l'Université de Reims. La mission de la chimie verte, c'est de se débarrasser de tout ce qui est toxique dans l'industrie, de faire de la recherche pour trouver des solutions de rechange aux ingrédients pétrochimiques notamment. Et comment on fait ça? On regarde vers l'arrière. Alors, après avoir mené 2 maîtrises en chimie verte, M. Marie déménage au Québec en 2009. Avec l'expérience et les connaissances que j'avais, j'ai eu envie de découvrir un territoire avec des ressources naturelles immenses. Déjà, il s'intéresse à l'industrie des cosmétiques et particulièrement au domaine capillaire. J'ai une fascination pour les cheveux. Il y a beaucoup de mysticisme très intéressant dans l'histoire par rapport aux cheveux. Ils symbolisent plusieurs choses dans différentes civilisations. Par exemple, pour les Amérindiens, les cheveux étaient le lien entre le monde de la terre et le monde spirituel. Encouragé par un ami coiffeur qui désirait travailler avec des produits naturels, le chimiste ouvre un laboratoire de recherche dès 2011. Il décide de ne faire aucun compromis et se donne la mission de créer des produits qui non seulement ne contiennent aucun ingrédient issu de la pétrochimie, mais qui sont aussi véritablement 100% naturels. Fini donc les silicones et les parfums synthétiques. Pour dénicher des solutions naturelles de remplacement, M. Marie se tourne donc vers le passé. Quand on est en chimie verte, on doit être un peu historien. Pour trouver des alternatives au pétrole, la première étape est de se référer à l'histoire. La révolution industrielle et l'avènement du pétrole ont fait que beaucoup de connaissances, notamment en médecine traditionnelle, sont tombées dans l'oubli. Ainsi, il y a des milliers d'années, les Amérindiens utilisaient la racine de yucca pour se laver les cheveux, un ingrédient que M. Marie utilise aussi dans ses shampoings pour créer une mousse légère et ainsi remplacer les sulfates qui sont normalement utilisés dans l'industrie comme agent moussant. Le naturel, c'est bien, mais le chimiste veut aller encore plus loin en intégrant dans ses produits, qui sont d'ailleurs tous conçus et fabriqués à Montréal, des ingrédients biologiques donc et issus de la culture locale. Je me suis rendu compte que tout ce que le Québec et le Canada ont à offrir comme ressources végétales n'est pas valorisé dans les produits. Ainsi, chaque produit intègre au moins une plante de culture locale qui était souvent utilisée par les Premières Nations. Par exemple, le bleuet a été sélectionné pour son pouvoir antioxydant et son apport en vitamines, l'achillée millefeuille parce qu'elle donne du tonus aux cheveux, et quant à la prêle, le fait qu'elle contient de la silice végétale, tout comme le bambou, lui permet de fortifier la fibre capillaire. Jean-Éric Marie est particulièrement fier de son sérum capillaire végétal à la formule non grasse et non collante, une innovation qui permet de conserver l'hydratation de la chevelure et d'améliorer son élasticité grâce à l'extrait de lin biologique. En terminant, l'article nous rappelle, pour les intéressés, que les produits mystiques sont offerts dans les sections professionnelles des PharmaPrix un peu partout au Québec et en ligne.
Ah, c'est disponible déjà.
Oui.
Il faudrait faire les essais.
J'ajouterais qu'on a tous des meilleures intentions au monde quand il s'agit de ce genre de produit. C'est souvent le prix qui détermine si on va adhérer ou pas. J'ai donc fait une petite recherche pour nous et pour vous. Alors, les flacons des produits mystiques sont de format de 355 millilitres et se vendent à 19 $ chacun. Peu importe s'il s'agit d'un shampoing ou d'un sérum ou d'un revitalisant.
Merci pour cette recherche. Voilà. Comparativement à une bouteille de shampoing
standard. Ça varie
standard.
Beaucoup selon les marques.
Ouais, parce que
On a du bas de gamme à 4-5 $, puis ça peut aller jusqu'à une trentaine de $. Ça dépend du nom qui est écrit dessus. Mais dans ce cas-ci, ça dépend des ingrédients.
Ça vaudrait la peine de l'essayer.
Oui. Moi, j'utilise ceux qui sont dans des hôtels, les petits contenants, vous savez, et ça me dure un mois.
Mais ce n'est pas 100% naturel.
Sûrement pas.
Chose qui me soit arrivée, une chance que la vie m'a donnée, l'équilibre et l'indépendance que j'aime, la clairvoyance dans mon poème. Depuis toi, j'ai du fun à jouer le jeu, belle éclaircie dans mes yeux. Et un éclair dans mon sang génie, le roc en dessous de ma folie t'embellit ma vie, t'embellit ma vie. T'es la plus belle chose qui me soit arrivée, mon harmonie inespérée. J'avais jamais connu un phénomène pareil, un lever de soleil avant le soleil. T'es une envoyée des dieux, ma vision du grand bleu. Un ciel sans nuages, une cathédrale, au vent doux sous les étoiles. Oh, ma dose, mon apothéose, mon grand fly. 9 ans, pis je suis encore ben high. T'embellis ma vie. T'embellis ma vie. Joie comme on n'en voit plus. T'es une révolution dans mon décor. Tu changes le plomb en or. By the way, les pompiers sont venus. On a le roquet, tout est beau. On peut brûler d'amour, oh yeah. La terre est fertile, y a des framboises, y a des bouleaux. La rivière est bonne, viens donc baigner tout nu. Fire mon âme, love mon cœur. Fire love, oh Marie ma douceur. T'embellis ma vie, t'embellis. T'embellis ma vie, t'embellis ma vie.
Plus récent extrait de Yann Perrault qui s'intitule « T'embellis ma vie », comme vous l'avez peut-être deviné.
Très belle chanson de déclaration d'amour, finalement. Le syndrome de Noé, qu'est-ce que c'est, Louis de Berlise?
Je vais vous expliquer ça. Parlons animaux un peu ce matin. Vous le savez, certaines mésaventures, y compris avec des animaux, peuvent mener au tribunal, et c'est le cas de cette histoire. Au tribunal, qu'est-ce qu'on peut avoir? Des peines de prison, des amendes parfois. Eh bien, cette condamnation-là vise à interdire la possession des animaux. Une famille, en effet, trois membres d'une même famille, dont l'un est atteint du fameux syndrome de Noé, dont je vais vous parler, sont interdits, ne peuvent plus posséder d'animaux de compagnie, sauf une seule exception, un poisson rouge, a tranché très sérieusement la cour de Québec il y a 2 semaines. Le juge Valmont-Beaulieu a entériné la proposition commune de la défense et de la couronne imposant une peine de 4 mois de détention. Les Fillon ont été, une famille donc, ont été reconnus coupables de cruauté animale en avril dernier. Leur avocat, maître Marino Mendo, a expliqué au droit que sa cliente, la mère, Madeleine Sauvé-Fillon, souffrait du syndrome de Noé, qui pousse ceux qui en sont atteints à posséder trop d'animaux de compagnie sans être capables de s'en occuper adéquatement. « Ils adorent les animaux », a brièvement dit maître Mendo. « Selon eux, ils ne font rien de mal ». L'amour malsain des Fillon pour les chats et les chiens et autres bêtes à plumes, à poils et en tout genre a conduit ces derniers devant la justice à plusieurs reprises. Les incidents du dossier actuel impliquent près de 20 chats, 2 chiens, un furet et d'autres petites bêtes. Trop d'animaux mal soignés ont une fois de plus attiré l'attention des autorités. Leur première histoire connue du public est celle de dizaines de cadavres de chiens malheureusement et de chats déterrés dans leur ancienne maison dans le secteur de Elmer. C'était en 2010. Infect, le bâtiment avait ensuite été cédé et détruit. Maître Mendo a au moins réussi à maintenir le droit de ses clients de conserver leur poisson rouge. Donc, des 4 mois de prison avec sursis, 2 devront être purgés 24 heures sur 24 à résidence. Ils sont donc à la maison avec leur bocal. L'autre moitié de la peine sera purgée avec un couvre-feu. Une probation de 3 ans s'ajoute à cette peine. Les thérapies devront également se poursuivre. Voilà pour les tribulations de cette famille qui aime un peu trop les animaux. Un peu trop pour bien s'en occuper tous.
Alors l'amour, hein, quelquefois, ça peut détruire.
Exactement, il faut veiller à avoir, être capable de bien s'occuper de la personne ou des animaux que l'on aime. Une deuxième petite anecdote avec un animal, cette fois encore, on va parler d'un serpent. Une jeune demoiselle a été aux urgences d'un hôpital, elle avait un serpent coincé dans l'oreille. Une adolescente américaine a dû effectivement se rendre dans un hôpital car elle n'arrivait pas à se débarrasser. Il s'agit de son animal de compagnie, hein. Elle ne s'est pas réveillée comme ça, c'est déjà ça. Ashley Glay, 17 ans, originaire de Portland dans l'Oregon, a expliqué aux médias locaux qu'elle était en train de prendre des égoportraits avec Bart, son python domestique. Quand ce dernier s'est glissé dans l'anneau qu'elle portait dans le lobe de son oreille. Vous savez, ces anneaux écarteurs qui grossissent de plus en plus. Eh bien, il y a de quoi y faire passer un python, apparemment. C'est ce que j'ai appris en lisant cet article. Sa mésaventure a rapidement fait le tour des médias sociaux et attiré l'attention des médias américains. « J'étais en état de choc. J'ai commencé à trembler », a confié la jeune fille. Elle s'est résignée à appeler les services d'urgence après avoir essayé sans succès de dégager le serpent. Les pompiers dépêchés sur place ne sont pas parvenus non plus à délivrer l'animal et la jeune fille a finalement été transportée à l'hôpital où les médecins ont utilisé du lubrifiant pour sortir le reptile de son oreille. Elle a eu tout de même le temps de prendre une petite photo avec son animal pendu à son oreille et pour la mettre sur les réseaux sociaux. Donc si vous avez un python, faites attention à là où vous le mettez et ce que vous faites avec.
Surtout si c'est un petit python.
Ça fait une drôle de boucle d'oreille. J'ai vu l'image sur les réseaux sociaux, c'était assez traumatisant. Oui. Oh, j'avais mal pour elle. Michel.
Bon, on continue dans des voyages. Puis peut-être, regardez comment éviter des déceptions, particulièrement lorsque vous allez en tout inclus. Et c'est de plus en plus populaire. Hein? Et bon, la qualité de la nourriture. Bien, la première chose, et je parle du Sud, bien sûr, quand je parle de tout compris. Alors, évitez d'avoir de trop grandes attentes. Vous savez, le prix que vous payez, il influence énormément la qualité de la nourriture que vous allez avoir. On parle de Cuba, entre autres choses, mauvaise réputation, dans le sens que, c'est apprêté différemment. Mettons ça comme ça, tu sais. Donc, tout est relatif aussi au montant que vous avez payé, au montant déboursé. Ensuite de ça, l'autre petite remarque que j'aurais à faire, lorsque vous êtes chez vous, est-ce que vous avez toujours le choix devant vous entre le poulet, le porc et
oui.
d'autres variétés? Mais c'est vrai, souvent, on critique, mais vous avez quand même un choix multiple, disons. Le choix de la chambre. Bon, souvent, des gens vont demander à leur agent, j'aimerais avoir telle chose. Votre agent n'a rien à voir avec ça, en aucune façon. Le seul qui décide, c'est l'hôtelier, lorsque vous arrivez à cet endroit-là. Alors, la chambre, je veux avoir au rez-de-chaussée avec donnant sur la piscine, oubliez ça. Votre agent va probablement, oui, dire, je vais le mentionner, sauf que c'est rendu à l'hôtel que ça va se décider. Donc, n'ayez pas d'attente face à ça. Le confort dans l'avion, ben vous savez, de plus en plus, les vols nodisés, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rapproché des sièges. Donc, attendez-vous pas. Et surtout, quand vous avez des vols de 3 heures, 3 heures et demie pour aller à Cuba, ben, tu sais, on peut supporter, en autant qu'il n'y a pas une conversation dans l'allée en avant. Vous savez, c'est... aussi les chaises sur le bord de la plage. La même chose. C'est toujours dépendant du prix que vous avez payé. Vous savez, de plus en plus, les gens doivent se lever à 7 heures pour envoyer le petit mettre des serviettes sur les chaises. Et pendant ce temps-là, il y en a qui mettent leurs serviettes le soir même.
Ah oui.
Oui. Je vous dirai pas la technique que j'ai utilisée.
Ben oui, on l'a vu.
Mm-hmm. Oui, ah oui. Je fais le tour le soir pour aller ramasser les serviettes. C'est pas le soir qu'il faut mettre les serviettes. Levez-vous le matin pour aller à votre place. Et certains... oui, je l'ai fait. L'omniprésence des Québécois. Bien, si vous ne voulez pas être avec un groupe de Québécois, bien, allez pas à Cuba, République dominicaine, le Mexique, Riviera-Maya particulièrement. Payez plus cher. Allez en Jamaïque, Martinique, Guadeloupe, des endroits semblables. Les étoiles dans les hôtels, mm-hmm. Attention. Les étoiles sont déterminées par le grossiste et par l'hôtel lui-même.
Ah, faut pas se fier à ça.
Très peu. Ça vous donne un indice, tout simplement. Mais vous savez qu'un 4 étoiles à un endroit, c'est un 2,5 à un autre endroit.
Mais entre un 5 et un 3, j'imagine.
Oui,
que...
oui, entre un 5 et un 2. Bon. Et d'autant plus que... Mais ce qui arrive, c'est que souvent, particulièrement à Cuba, les hôtels se détériorent et on ne renouvelle pas. Donc, un hôtel qui a été un 4 étoiles... peut, après un an, deux ans ou cinq ans, et surtout 10 ans, devenir un 2 étoiles. Parce qu'on, par manque d'entretien. Donc, c'est une référence. Référez-vous à votre agent de voyage, qui devrait être honnête face à vous.
Et on va s'informer pour ne pas partir en même temps que Michel, pour ne pas se faire prendre une serviette.
Je me demandais qui faisait ça.
Oui!
Merci, Michel. Et puis, on se retrouve après la pause avec Michel Audet, Louis de Bernis et Sylvie Dion pour d'autres textes, d'autres propos qui concernent les voyages, l'alimentation et l'insolite. Hélène Denis qui vous accompagne à l'émission Les Voix de service en ce beau mardi ensoleillé d'hiver.
C'est comme si j'étais jamais parti. J'ai remis mes vieux running qui me donnaient des ailes. J'ai recousu les fils de ma vie. Pas de fanrol, pas de discours. C'est rien qu'un chat de ruelle qui rentre dans sa cour. Sans trompette ni tambour. Après un long détour, je suis revenu. J'ai vu ma face qui me souriait. C'est le premier miroir depuis des années qui me reconnaît.
Le retour du flâneur, Beau Dommage sur Canal M.
Dis-moi qui tu es, je te dirai ce que je t'offre à manger.
Mais oui, mais oui. Alors, c'est sous la plume de Catherine Henfield dans la presse aussi, le 16 février. Alors, quand les clients traversent la porte de Maxi et compagnie à Côte-des-Neiges, à Montréal, un gros étalage les accueille. On y trouve des aliments qu'on a choisi de mettre en valeur. Un show, appelle-t-on ça dans le milieu? Lors de notre passage jeudi dernier, bien entendu, c'est la presse qui parle, on y retrouvait des rapini, des pomelos, des bok choy, des papayes, en grosse quantité. Dans un magasin comme celui de Chambly, où j'habite, explique Patrick Blanchette, on peut vendre peut-être une douzaine de rapini par semaine. Mais ici, à Côte-des-Neiges, ou encore au magasin de Jean Talon, on parle de 200 et 300 par semaine. Quand il est en solde à 1 $, ils peuvent vendre une remorque complète, nous confie le directeur principal pour les enseignes de Maxi et compagnie, Patrick Blanchette. Alors, au Maxi et compagnie de Côte-des-Neiges, certains étalages rappellent littéralement ceux des marchés Kim Fat à Brossard et Adonis. Montagne de poches de riz de 8 kilos, gros sacs de champignons séchés, bouquets de menthe fraîche, légumes racines, bananes plantains, etc. Sur 113 magasins Maxi au Québec, 33 tiennent des produits des quatre grands segments, Moyen-Oriental, Haïtien, Asiatique et Indien. Quatre magasins Maxi sur 5 tiennent au moins une petite partie des produits multiculturels. Maxi, qui offre donc des produits multiculturels depuis environ 10 ans, tâche depuis un an et demi de répondre encore plus précisément au goût de ses clients en offrant dans 14 de ses magasins un assortiment de produits pré-emballés plus ciblés. Au magasin de Côte-des-Neiges, on trouvait lors de notre passage des feuilles de taro, des haricots longs et des gumbos, entre autres choses. Évidemment, une offre alimentaire de base se retrouve dans tous les magasins des grandes enseignes. Plus de 80 % des produits chez Maxi, selon Patrick Blanchette. Mais chaque magasin a ses particularités, que ce soit sur le plan de la variété, de la quantité ou de la présentation des produits, nous ont confirmé Métro, le groupe Loblaw et Sobeys Québec, donc toutes les grandes enseignes qu'on a ici. Avec les programmes de fidélité comme Métro et moi et la carte PC+, les grandes enseignes peuvent avoir une idée encore plus précise des habitudes alimentaires de leur clientèle. L'idée que les clients puissent trouver ce qu'ils désirent est centrale dans nos décisions et au cœur de nos opérations. Il faut s'assurer d'adapter l'offre de chacun de nos magasins à la clientèle précise qui les fréquente. C'est l'opinion de Geneviève Grégoire, qui est conseillère en communication chez Métro. Aux yeux de Pierre-Alexandre Blouin, cette fois, lui qui est vice-président aux affaires publiques à l'Association des détaillants en alimentation du Québec, les magasins se doivent d'adapter l'offre en fonction de leur clientèle. Sinon, les consommateurs n'en vont tout simplement pas se présenter chez nous. Certes, l'appartenance ethnique et religieuse de la population locale influence la marchandise tenue en magasin. Par exemple, au Maxi de Rivière-des-Prairies, où 12,5% des clients sont issus de la communauté italienne, on trouve plusieurs sortes de pâtes fraîches et des desserts italiens, tandis qu'au Maxi de Brossard, on trouve une grande variété de poissons congelés, dont le chanos, qui est populaire auprès de la clientèle asiatique. Mais il y a aussi d'autres facteurs qui entrent en jeu, dont le niveau de scolarité et le revenu de la clientèle. Par exemple, les produits biologiques font fureur au Maxi de Dorval et au marché métro de Griffintown et de Westmount, notamment. Il y a plus de demandes et donc plus de diversité, résume Geneviève Grégoire de chez Métro. Les clients aisés et ceux qui sont plus instruits sont souvent parmi les premiers à réclamer à leur épicier de nouveaux produits en vogue auprès de certains chefs. Pierre-Alexandre Blouin cite l'exemple récent des edamame, qui se sont d'abord retrouvés dans les épiceries des milieux urbains plus aisés, mais qu'on voit maintenant partout au Québec. Il donne aussi l'exemple des sushis, qui à leur début se vendaient bien en ville, mais pas du tout en région, alors qu'aujourd'hui, les sushis sont populaires partout. Mais il ne faut pas prendre Montréal comme un bloc uniforme, précise Pierre-Alexandre Blouin. Il se fait des choses sur le plateau qui ne se feront probablement pas dans Hochelaga Maisonneuve. Et d'un autre côté, on peut trouver des choses à Rimouski avant qu'elles arrivent dans certains coins de Montréal. Il souligne les tendances alimentaires peuvent donc partir des régions avant d'atteindre le centre. Pierre-Alexandre Blouin en convient, il arrive que des clients reprochent à leur épicier de ne pas tenir une assez grande variété de tel ou tel produit. Et effectivement, s'il y a peu de demandes ou peu de gens qui sont prêts à payer un produit X, il n'y a pas de magasin qui va se spécialiser à en vendre. Ils font des essais, mais c'est risqué de faire des essais à coups de palettes de produits, souligne M. Blouin, qui précise que dans un supermarché, la marge de profit net est d'environ 1% seulement. En fin de compte, conclut-il, c'est le consommateur qui décide si un produit va être efficace au terme de sa mise en marché ou s'il ne le sera pas.
Mmh. C'est important de faire une étude de marché pour les marchés, finalement.
Pour les marchés, puis pour le consommateur, de savoir que tel produit qu'on ne trouve pas dans notre quartier parce qu'on n'a pas ce type de population, on peut le trouver dans un autre quartier.
Oui, pas gêné aussi pour manifester son désir d'avoir une papaye.
Demandez et vous recevrez, peut-être.
Et même dans les supermarchés, vous savez, on distribue des circulaires. Et il peut arriver que dans certains supermarchés, vous ne trouverez pas le produit qui est dans la circulaire.
Ah ben oui.
Parce qu'à cet endroit-là, il ne se vend pas, tout
il
simplement.
Pas de demande.
On se fait avoir.
Oui, c'est ça. Entendez les feuilles de tarot. Est-ce que c'est avec ça qu'on tire l'avenir?
Je ne sais pas si on peut lire dans ces feuilles de tarot-là.
J'ai aucune idée de ce que c'est, les feuilles de tarot.
Non, moi non plus.
J'avoue mon ignorance.
Michel, une bête mal aimée de plus en plus, hein, le dindon sauvage.
Le dindon sauvage, c'est ça. Petite anecdote, le 26 mars 2016, c'est quand même récent, hein? Il y a un dindon sauvage qui a fracassé la porte-fenêtre d'un logement de Gatineau, qui a atterri dans le salon d'une dame.
On a entendu dindon, parler.
Et qui a abîmé les meubles. Ça a produit un choc nerveux, bien sûr. Et c'est devenu connu, le dindon sauvage, grâce à TVA qui a... oui, c'est ça. Qui a parlé de cet événement-là.
Mais
vous savez que c'est le volatile le plus lourd de notre faune aviaire. 5 kilos pour le c'est quand même assez considérable. Et dans ce cas-là, il s'agit probablement d'un mâle qui a aperçu son reflet dans la vitre, comme ça arrive parfois pour des oiseaux aussi, hein, qui viennent se fracasser dans des vitres. C'est simplement que ça fait un effet miroir d'une certaine façon. Alors, cette espèce maintenant serait favorisée par le réchauffement climatique et la déforestation aussi à des fins agricoles qui offrent du grain résiduel. Et depuis 3 décennies, c'est un oiseau qui s'acclimate très facilement au Québec. Et il s'agit d'un d'oiseaux sauvages qui, depuis des millénaires, survivent dans l'est du continent sud-américain. L'état des populations indigènes avant le 19e siècle, c'est peu documenté. Et en fait, il était disparu du Québec depuis les années 1900. Il n'y en avait plus au Québec, du tout. Donc, la réintroduction de l'espèce vient des États-Unis au 20e siècle et on nous dit que c'est une belle histoire de succès aux États-Unis. Dès 1950, les Américains ont adopté des mesures de protection absolument draconiennes pour le protéger, ce qu'ils appellent le « wild turkey ». Je vous dirai à la fin pourquoi Turkey. Et l'oiseau, il a prospéré dans des États comme le Vermont, le Maine, New York. Il était présent en Ontario. Bien, évidemment, il a traversé la rivière des Outaouais, puis il est venu nous visiter. Hein. Et on a des populations de plus en plus abondantes. On peut peut-être faire un petit aparté ici, bien, parce qu'on en parlait dans des journaux en fin de semaine. Hein. Les agriculteurs sont inquiets parce que certains dindons sauvages sont en train d'envahir leurs champs. Mmh. Ils mangent les grains.
Ils
mangent la culture, absolument. Mais la première observation par un ornithologue, excusez-moi, sur le territoire québécois, ça remonte à 1976. Et à ce moment-là, l'espèce était considérée comme vulnérable. Maintenant, pour l'industrie de la chasse, bien, ça représente un levier économique dans certaines régions très, très important. Hein? La popularité est en forte croissance, la popularité de la chasse. Est-ce qu'on peut parler d'une explosion démographique? Si on se fie aux observations, on peut dire oui. Et ce qu'on disait justement dans les journaux, c'est on les retrouve en groupe. Hein? Les populations étaient établies dès 1980 au Vermont, l'État de New York. On parlait même de 65 000 têtes. À partir de 2005, ces dindons-là ont été ce qu'on appelle relocalisés. Ils ont été relocalisés chez nous, au Québec. Alors, maintenant qu'il y a de nouvelles populations viables, le dindon, on le mentionnait, est en abondance maintenant au Québec. Mais ça ne convainc pas, ce que je viens de mentionner, l'abondance, le directeur général du regroupement Québec-Oiseaux, dont est tiré cet article ici. Il nous dit « Aucune conclusion ne peut être tirée de ces études. Pour mesurer l'effet de la chasse, il aurait fallu créer des zones témoins sans chasse à ce moment-là. » Et il est incapable de dire si des relocalisations ont été couronnées de succès, puisqu'aucune étude à long terme n'a été menée. Autrement dit, les observations, c'est fait par des agriculteurs qui disent « Ah, oh, c'est une nuisance publique, mais est-ce que c'est vrai pour l'ensemble? » C'est peut-être vrai seulement.
Ça crée des problèmes aussi dans les aéroports, vous qui parlez souvent
oui,
de voyage.
Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Comme ça a été le cas pour d'autres espèces d'oiseaux hein, qui ont causé
des accidents
importants ben avec les moteurs à réaction, bien sûr. Hein. Et même si le gallinacé n'est pas aussi rare que dans les années 1900, il continue de figurer sur la liste des oiseaux que les amateurs aiment observer. Est intéressant à observer. On nous dit l'article difficile à chasser parce qu'il est difficile à approcher. Maintenant, c'est peut-être de moins en moins vrai avec l'invasion ouais. des cultures, l'invasion des champs, mais ce n'est pas la période de la chasse, si je comprends bien, à ce moment-là. Et peut-être voir qu'est-ce que c'est le rapport entre le dindon sauvage et la dinde qu'on mange.
Oui. Ben, on mange en Noël.
Oui, c'est ça.
Ou à
l'action c'est grâce. Le même animal dont on a créé une race domestiquée. C'est absolument le même. On craint d'ailleurs les épidémies parce que les lignées génétiques ne sont pas différentes. Ils n'ont pas été diversifiées. Un petit chiffre ici. Il s'est produit 5,8 millions de tonnes de dinde dans le monde en 2006. Ben, vous vous doutez que le Canada, c'est un petit joueur. C'est des États-Unis. Hein,
qui sont, avec le Thanksgiving.
Ben oui, tout à fait. Ils descendent pour la plupart d'oiseaux sauvages qui ont été domestiqués par les Amérindiens du Sud, des États-Unis, le Mexique, il y a quelque chose comme 2500 ans. Mais vous savez que les premiers explorateurs, quand ils sont venus ici, ils pensaient qu'ils s'en allaient en Asie, hein? Mm-hmm. Alors, d'où Turkey. Le nom de Turkey.
Et de blé d'Inde.
Ben oui, parce qu'ils exactement. Mm-hmm. Parce qu'ils pensaient qu'ils étaient en Turquie. Donc, ils ont ramené des oiseaux là-bas, puis ils ont appelé ça... Turkey. Alors, c'est assez curieux comme phénomène. Hein? Alors, vous voyez comme un oiseau qui était en perte de vitesse, vraiment, est rendu quand même en abondance. Et c'est la raison pour laquelle Québec Oiseau défend sa position d'interdire, d'intensifier la chasse. Mais les chasseurs, eux autres, disent, ben non, hein, c'est une manne. Alors, il s'agit de trouver un bel équilibre dans tout ceci.
Comme dans beaucoup de choses.
Exactement.
c'est à vous.
C'est à moi. Dans la vie, vous savez, certains ont un emploi, et bien d'autres s'en inventent un autre parfois. C'est le cas de ce pilote d'avion qui s'est improvisé livreur de pizza il y a une ou deux semaines. Le transporteur Air Canada s'est excusé auprès des passagers ayant dû faire un arrêt impromptu tard le soir à Fredericton sans avoir rien à manger. Jusqu'à ce qu'un pilote, mais pas un pilote d'Air Canada, un pilote de WestJet, viennent proposer d'acheter de la pizza. Les voyageurs étaient à bord d'un vol parti de Toronto à destination de Saint-Jean, Terre-Neuve et Labrador, le 8 février, lorsque le mauvais temps a forcé le déroutement de l'avion au Nouveau-Brunswick, tard dans la nuit. Un des passagers, John Sams, a rapidement indiqué sur Twitter qu'un employé d'Air Canada avait annoncé qu'il était malheureusement impossible d'obtenir de la nourriture à cette heure tardive. Peu après, il écrivait « Moment gênant mais cocasse, un gars de WestJet s'est présenté et a dit « Salut les gars, je suis de WestJet et nous faisons les choses différemment. Est-ce que vous voulez de la pizza ?» En entrevue mercredi, M. Sams a dit que la situation était un peu gênante pour tout le monde parce que l'employé d'Air Canada se trouvait encore sur les lieux. Il a dit s'être demandé s'il y aurait un affrontement quelconque, précisant toutefois qu'il n'y avait rien eu de tel et que tout s'était bien passé. Tous les passagers ont bien sûr applaudi à l'initiative de l'employé de WestJet, vous vous en doutez. Monsieur Sams a indiqué que 4 ou 5 pizzas avaient été commandées. Il a précisé que l'employé d'Air Canada avait tout de même offert par la suite des bons cadeaux de 10$, hein, essayant de se rattraper et faire mieux que WestJet, mais qu'il n'y avait nulle part où utiliser ces bons dans l'aéroport à cette heure-là. Le pilote n'a pas pu être joint et WestJet n'a pas voulu commenter. Par communiqué, Air Canada a dit être désolé que ses clients aient eu à subir un déroutement en raison de la météo dans un aéroport qui ne s'attendait pas à les recevoir avec un si court préavis. Ils ont salué l'employé empathique ayant apporté son aide et disent lui avoir offert des remerciements en personne. Voilà quand la concurrence entre les compagnies aériennes se fait à coups de parts de pizza.
C'est une belle publicité pour WestJet.
Absolument.
Ouais, une expérience assez formidable pour les gens qui ont été pris dans cette situation-là, mais ça a fini avec une bonne pointe de pizza. Ben oui. J'espère qu'elle était bonne.
Non, pas douter.
Sylvie?
Oui, j'ai un autre petit texte sur... Les entreprises font ce qu'elles veulent. On parlait des gabarits tantôt pour les valises dans les compartiments, dans les avions. Ici, on s'en va sur les tours de taille et les pantalons.
Ah oui, alors, chez les humains.
Chez les humains, oui. Alexandra Piette, qui a 23 ans, possède 3 pantalons. Acheté chez H&M, le premier est en taille 6 ans. De chez Zara, le deuxième est en taille 2 ans. Et le troisième, chez American Eagle, est en taille 0. Les 3 pantalons lui font bien. Cherchez l'erreur. Mm-hmm. Je mesure 1m60 et je pèse 50 kilos. Ça devrait pas être difficile de m'habiller, dit la jeune femme, qui se décrit comme une passionnée de mode. Mais ça l'est parce que les grandeurs ne sont jamais pareilles d'un magasin à l'autre. C'est la cacophonie chez les tailles, confirme Marie-Ève Faust, directrice de l'École supérieure de mode à l'UQAM. C'est un grand problème aujourd'hui. La taille des vêtements a déjà été standardisée. En 1958, le Bureau national des normes américain avait publié un guide détaillé des tailles qui était désigné comme allant de 8 ans à 22 ans et devait habiller les femmes pesant de 44 à 87 kilos. Ce n'était pas parfait, mais c'était un standard. Sauf que les tailles étaient basées sur les mensurations des femmes blanches prises dans quelques États seulement. Au Canada, l'Office des normes générales a aussi standardisé les tailles dans les années 50, différemment de celles des États-Unis, bien sûr, à la demande d'une association de consommateurs. Mais la série de normes liées à la désignation des tailles a été retirée en février 2012, étant donné qu'elle était très peu utilisée. Il faut dire que la population a grandi. En 2014, la Canadienne moyenne mesurait 1m64, soit 6 cm de plus que 100 ans auparavant, selon une étude de l'Imperial College de Londres. Son poids aussi s'est alourdi, vous vous en doutez. 53% des femmes canadiennes de 18 ans et plus étaient en surpoids en 2004, d'après Statistique Canada. Même si les standards ont été révisés quelques fois, les fabricants les ont peu à peu délaissés. Ils ont cédé au « vanity sizing », c'est-à-dire les tailles de complaisance. Pour flatter la clientèle, et tout le monde va savoir de quoi on parle ici, la petite robe étiquetée 8 ans s'est élargie peu à peu, sans perdre son numéro. Ça plaît toujours à une femme de penser qu'elle n'a pas 5 livres à perdre, résume Mme Faust. La taille de 8 ans est devenue une 10 ans qui ne s'assume pas, puis une 12 ans. On parle des femmes ici, mais c'est la même chose chez les hommes. En vertu de la loi sur l'étiquetage des textiles, les fabricants ne sont pas tenus de confectionner des vêtements conformes à des tailles bien précises, explique Marie-France Fauché du Bureau de la concurrence du Canada. Les entreprises font ce qu'elles veulent. Constate donc Alexandra Piette, qui était notre première
intervenante,
c'est ça, et qui est étudiante en commercialisation de la mode et styliste à l'agence CAJ. Curieusement, les tailles des patrons de couture n'ont pas connu cette déflation. Peut-être parce que les femmes qui manient l'aiguille connaissent trop bien leur mensuration pour être leurrées, contrairement aux autres. Camélia Saint-Cyr-Robitaille, qui est directrice de l'atelier Espace Fabrique à Montréal, explique qu'avec un patron commercial, je vais me faire un vêtement en taille 16, alors qu'en magasin, j'achète la taille 12. Au début des années 2000, Mme Foss a comparé les tailles de 5 pantalons faits au Québec dans le cadre de son doctorat en génie industriel à Polytechnique. Les tailles variaient de 68 à 82 cm, alors que le standard canadien était de 58 cm. L'écart est quand même significatif. D'abord subtil, le phénomène des tailles de complaisance s'est accéléré. Je me souviens qu'on se disait à l'école « Un jour, on va arriver à la taille zéro », dit Mme Faust. Aujourd'hui, on a non seulement la taille zéro, mais aussi la taille double zéro. Et pourtant, personne n'est mince au point de ne pas être là. C'est d'un ridicule absolu. En fait, des détaillants américains comme J.Crew offrent même la taille triple zéro pour habiller les petites Asiatiques, plaide de la marque, tandis que d'autres songent plutôt aux anorexiques. Peut-on espérer le retour de normes suivies par toute l'industrie? Ni Option consommateur, ni l'Union des consommateurs ne revendiquent la normalisation des tailles de vêtements. Alors que la population se diversifie, établir des standards nationaux semble utopique, même si les scanners corporels permettent maintenant de récolter des données plus concrètes que jamais. Mais les marques fonctionnent différemment et ciblent désormais une clientèle. Par exemple, les femmes minces, les professionnels dans la quarantaine, etc., sans se soucier des autres. Elles ne produisent que quelques tailles pour réduire leur stock. À mon avis, on fait fausse route en pensant comme ça, estime Mme Faust. Les entreprises devraient élargir leurs standards pour aller chercher une plus grande part de marché. Et l'étiquetage devrait être complètement repensé pour en dire plus long. Ça pourrait être une image, par exemple, avec des mesures corporelles précises. Si on n'avait plus d'informations, les vendeurs nous aideraient à choisir dans les magasins au lieu de passer leur temps à replacer les vêtements sur les présentoirs. Alors voilà, c'était la cacophonie chez les tailles.
Oui, tout à fait. Hein. Ce sont des tailles de complaisance qui deviennent mêlantes, mais ça nous incite à aller en boutique et faire des essayages au lieu d'acheter en ligne.
Effectivement, c'est une des principales plaintes, les retours, parce que quand tu achètes en ligne, il y a énormément de retours et ça, c'est des frais.
Il y a une différence importante entre les hommes et les femmes quand même, hein? Parce qu'on ne marche pas, nous autres, on ne dit pas un 2 ans, un 4 ans, un 12 ans, ou pas du tout.
C'est au centimètre du
tour de taille. C'est 32, 34, 36, et c'est beaucoup plus précis d'une certaine façon. Comme la chemise, c'est le tour de cou, la longueur des jambes, etc. Donc, il y a une différence importante. Alors, je vais vous parler de la bio-impression en trois dimensions. Okay? Aujourd'hui, on est capable de reproduire des sections d'os, de muscles, de cartilage et de peau. Hein? C'est incroyable ce qu'on peut faire. Il y a même une artiste néerlandaise qui a réussi à reproduire l'oreille de Van Gogh. Van Gogh, s'il vous plaît. Elle préférait utiliser les cartilages de l'arrière-petit-fils du frère de Van Gogh pour reproduire telle quelle l'oreille. Et on peut reconstruire la peau aussi. Ça devient particulièrement intéressant. Et on obtient en 20 jours un échantillon de peau complet et fonctionnel. Alors, on peut reconstituer un visage entier en 5 heures. C'est assez incroyable. Hein? Et même, on peut reconstituer des peaux asiatiques stressées, jeunes, matures, et différents types de peaux. C'est assez phénoménal. Et bien sûr, l'industrie cosmétique internationale s'en est m'accaparer d'une certaine façon. Mais ce qui m'apparaît intéressant, on peut imaginer d'ici 10 à 10 ans que cette technologie en médecine régénérative va pouvoir soigner des grands brûlés. Et là, ah oui, ça devient particulièrement intéressant en imprimant directement de la peau sur leur corps, directement. Donc, voyez, il y a quand même des avenues fort intéressantes. Et on parle même de reconstitution de foie, d'organes et de choses semblables.
Impressionnant. Moi,
je pense que c'est une avenue très prometteuse en médecine.
Et pour terminer, un petit conseil pratique pour gagner sa vie facilement et assez bien même.
On aime toujours ça.
Faites comme cet Espagnol de 47 ans qui a touché la pension de retraite de sa grand-mère pendant près de 20 ans. Seul petit problème, sa grand-mère n'est plus de ce monde depuis 20 ans. Il a donc été arrêté récemment, soupçonné fortement d'avoir empoché, tenez-vous bien, plus de 200 000 euros. On parle de 300 000 dollars canadiens sur 20 ans. Bien vivant et très prudent, le petit-fils touchait les versements en les retirant au distributeur, jamais au guichet, lui qui gérait déjà le compte de son aïeul avant qu'elle ne meure. Voilà, donc entendez-vous bien avec vos grands-parents et ne dites pas trop au gouvernement si vous allez à leur enterrement.
Alors, on suivra quand même pas l'exemple de ce petit-fils.
Non.
Merci beaucoup Michel, Louis et Sylvie. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne journée, bonne semaine. Et puis, moi, je vous retrouve tout de suite après la pause avec les revues de presse, notamment.